Ce matin, j'ai un message pour vous. Le titre de mon message, c'est « Que vois-tu ?» Que vois-tu ? Est-ce qu'il y en a qui ont des problèmes de vue ce matin ? Oui. Est-ce qu'il y en a qui portent des lunettes ? Et la classique de ceux qui portent des lunettes, c'est de ne pas savoir où est-ce qu'ils ont mis leurs lunettes pour réaliser que finalement, elles étaient sur vous. Alors bien sûr, je ne connais pas ce problème vu que je ne porte pas de lunettes. Mais que voulez-vous, c'est comme ça. Que voyez-vous ? Que voyez-vous ? Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais nos yeux nous jouent des tours. Nos yeux nous jouent des tours et des fois, on n'est pas sûr de ce qu'on a vu. On n'est pas tout à fait sûr. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand il y a des enquêtes criminelles, très souvent, il y a toujours plusieurs témoins. Ils ont vu la même scène, pourtant ils ont vu quelque chose de différent. Et un exemple pour vous, pour savoir si vous voyez bien, c'est cette première image. Cette première image, c'est que voyez-vous ? Que vois-tu ? Qui voit un lapin ? Qui voit un canard ? Ouais, je sens qu'il y a plus de canards ici que de lapins. Et bien sûr, il y a ceux qui disent « Moi, j'avais vu les deux. » Qui a vu les deux ? Good, excellent. Canard, lapin. On voit tous la même chose, pourtant, on voit quelque chose de différent. Un autre exemple, c'est cette image. Et là, beaucoup hésitent à rire. Ils se disent « Qu'est-ce qui se passe ce matin à la prairie ? Quelle est cette image ?» Et ce qui est intéressant, c'est que quand on voit des choses dans nos vies, dans la vie des autres, on a tendance à juger. On juge sur ce qu'on voit. Mais ce qu'on voit, parfois, nous joue des tours. Et en fait, ce dessin, c'est une enfant qui l'a remis à sa professeure pour savoir ce qu'elle voulait faire plus tard, ce qu'elle voulait devenir. Et c'est écrit sur le dessin, « Quand je grandirai, j'aimerais devenir comme maman. » Le dessin est revenu à la maman. Et l'histoire raconte que lorsque la photo est arrivée à la maison, la mère a ressenti le besoin de clarifier par une lettre comme suit. « Chère Madame Jones, je tiens à préciser que je ne suis pas maintenant et je n'ai jamais été une danseuse exotique. Je travaille chez Home Depot et j'ai dit à ma fille à quel point c'était mouvementé la semaine dernière avant le blizzard. Je lui ai dit que nous avions vendu toutes les pelles que nous avions. » Puis j'en ai trouvé une de plus dans l'arrière-boutique et que plusieurs personnes se battaient pour savoir qui l'aurait. Sa photo ne me montre pas en train de danser autour d'un poteau. C'est censé me représenter en train de vendre la dernière pelle à neige que nous avions chez Home Depot. Que voyez-vous ? Et ce qui est intéressant, c'est que vous m'aviez jugé il y a quelques instants, mais votre réaction vous a jugé vous-même. Tout ça pour dire qu'on peut tous regarder la même chose et pourtant voir deux choses différentes. Avoir deux regards différents sur une situation. Toute ressemblance avec une situation dans votre couple, sur quelque chose que vous voyez mais que vous pressentez différemment, serait totalement fortuite. Et j'aimerais vous parler ce matin d'un passage dans la Bible où la façon de voir a changé la destinée des individus, de certains individus, mais que leur façon de voir a aussi changé la destinée de tout un peuple. Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte par l'entremise de Moïse. Je vous fais un petit récapitulatif. Et ce qui se passe, c'est qu'il fait sortir le peuple d'Égypte. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avec les enfants, on est dans une thématique sur Moïse. C'est super intéressant. Posez des questions à vos enfants là-dessus. Et Dieu fait sortir le peuple hébreu de l'Égypte par Moïse qui va les chercher. Il y a les 10 plaies d'Égypte, tout ça. Et ils arrivent devant la mer Rouge. Il y a le miracle de la mer Rouge. La mer s'ouvre en deux. C'est assez incroyable. C'est assez fou ce qui se passe. Et Dieu les dirige par la nuit et c'est miracle sur miracle. Il y a même le miracle de la manne où la bouffe tombe littéralement du ciel. Et combien croient qu'en temps d'inflation, ça serait bien une manne 2.0 ? Moi, je suis pour ça. Et finalement, après environ un an de pérégrination dans le désert, où ils marchent, ils viennent, je sais pas ce qu'ils font, ils tournent, ils retournent, après plus d'un an, ils s'approchent de la frontière de la terre promise, Canaan. Et on se retrouve dans le livre que vous lisez le plus après les psaumes et les proverbes, le livre de Nombres. Au chapitre 13, dans lequel Moïse, à la demande de Dieu, envoie 12 espions pour explorer le pays promis et la région afin de rapporter des informations sur la terre, sur ses habitants et sur ses ressources. Il envoie sa CIA pour aller voir ce qui se passe là-bas, pour savoir comment on fait. Et après 40 jours, les espions reviennent pour faire un rapport. Qui connaît cette histoire ? Je trouve que c'est une des histoires les plus intéressantes, vraiment. J'aime ça, il y a de l'espionnage, tout ça, les gays aiment ça. Nombre 13, 25, 27. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute l'assemblée des Israélites à Kadesh, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. » Et là, ils leur montrent des fruits exceptionnels, des grappes de raisins aussi grosses que vous et moi. Et la suite dit « Mais !» Je me demande si les Israélites n'étaient pas québécois, en fait. Tout est beau, c'est magnifique, mais. C'est merveilleux, il y a des fruits, mais. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak. Les Amalécites habitent la région du sud. Les Hittites, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent au bord de la mer Méditerranée et le long du Jourdain. En gros, c'est super, mais ça va être compliqué. C'est fantastique, mais va falloir travailler. Il y a le lait et le miel, c'est incroyable, c'est fantastique, mais je suis pas en forme. Je sais pas ce que j'ai. Et voici la suite, nombre 13-30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui l'y avaient accompagné dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Et c'est fou comment quand Dieu nous fait des promesses et qu'il y a des choses extraordinaires devant nous, que c'est incroyable, mais dès qu'il y a des problèmes, des petites affaires qui sont contre nous, on fait comme « Ah ouais, je suis pas si sûr que ça » et on commence à dénigrer. Et on fait ça avec tout, avec une équipe. C'est fou comment le Canadien, ils sont incroyables quand ils gagnent et quand ils perdent, c'est... Quand ils gagnent, c'est « on a gagné » et quand ils perdent, c'est « ils ont perdu ». On fait la même chose avec les politiques. Quand tout va bien, c'est normal et quand ça va mal, c'est « on dénigre ». Et ils dénigrent. Et sur les 12 qui font un rapport, 2 sont positifs et 10 sont négatifs. 2 positifs et 10 négatifs. Et j'aimerais commencer par vous dire que la majorité n'équivaut pas à la vérité. Ce n'est pas parce que la majorité pense une chose que c'est la vérité. La majorité n'est pas forcément en accord avec la volonté de Dieu, et même dans l'Église. Et si on y pense bien, c'est que s'il s'était aligné à la majorité, Noé n'aurait pas construit de bateau. S'il s'était aligné à la majorité, David ne serait pas allé combattre Goliath. S'il s'était aligné à la majorité, Caleb et Josué ne se seraient pas emparés de la terre promise. S'il s'était aligné à la majorité, Jésus ne serait pas allé à la croix. Parce que les disciples voulaient le garder. Reste avec nous, on est bien, viens, on va... Jésus ne serait pas allé à la croix. Si je m'étais aligné à la majorité, je ne serais pas devenu pasteur. Et si vous étiez aligné à la majorité, vous ne seriez pas là ce matin. Mais gloire à Dieu, vous êtes là ce matin. Est-ce que vous pouvez vous donner une bonne main d'applaudissements ce matin? Mais la majorité n'équivaut pas à la vérité. La majorité de ce que les gens pensent n'équivaut pas à la vérité de Dieu sur ta vie, sur ce que Dieu dit de toi, sur ce que Dieu a en réserve pour toi, sur les plans qu'il a pour toi. Que disent les gens sur ta situation? Et c'est intéressant parce que souvent on va voir les autres et on se demande « Ouais, je vis ça, qu'est-ce que tu en penses, etc. » Et souvent on leur pose la question parce qu'on attend une certaine réponse d'eux. Et nous-mêmes, quand on nous pose des questions comme ça, on va aller dans le sens des personnes. Que disent les gens sur ta situation, mais que dit Dieu sur ta situation? Peut-être la majorité vont te dire « Non, n'y va pas ». Mais Dieu te dit « Si, si, il faut que tu ailles. » Mais non, n'y va pas, c'est compliqué, tu vois, ça va être... Écoute, il y a telle chose, franchement, ça ne fait pas de sens. Sois sage un peu. Et Dieu dit « Non, vas-y. » Que disent les gens, mais que dit Dieu sur ta situation? Parce que souvent, on écoute les gens qui nous disent ce qu'on veut entendre. Des conseils qui nous laissent dans le confort et la sécurité, saupoudrés d'une certaine sagesse avec quelques versets bibliques. Oui, mais il est écrit. Vous connaissez? Voici les 10 raisons pour lesquelles il ne faut pas y aller. Verset à l'appui. 2 sur 12 pour attaquer. 2 sur 12 pour s'emparer du pays promis. 2 sur 12, j'ai fait les calculs, c'est 16%. 16%. Et 16%, on ne gagne pas une élection avec ça. On ne gagne pas une élection avec 16%. Mais la volonté de Dieu n'est pas une question de démocratie. La volonté de Dieu n'est pas une question de démocratie. Parce qu'en général, on vote pour ce qu'on veut. Et Dieu n'est pas un politicien avec un programme et des promesses vaines. Dieu est un père avec des plans de paix et de bonheur et des promesses certaines. Amen. Dieu est un père. Et pour ceux qui sont parents ici ce matin, vous savez qu'on ne donne pas à nos enfants ce qu'ils veulent, mais ce dont ils ont besoin. On ne leur donne pas ce qu'ils veulent, on leur donne ce dont ils ont besoin pour bien grandir, pour évoluer, se développer à leur plein potentiel. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire avec nous. Mais si on écoute la majorité, ça se peut qu'on puisse passer à côté des promesses que Dieu a pour nous. 2 sur 12. Si Dieu t'a dit quelque chose, ne laisse pas la majorité te détourner ou diminuer les promesses qu'il a faites sur ta vie. Ne laisse pas la majorité t'éloigner de ce que Dieu a dit. Nombre 13, 23. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak qui sont issus des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Que vois-tu? Que vois-tu? Tous sont d'accord pour dire que c'est un pays d'abondance où coule le lait et le miel avec de belles opportunités, mais la majorité des espions, 10 sur 12, trouvent que le pays est fort et puissant. Pourquoi? Car ils ont vu. Car ils ont vu des géants qui rendent la conquête impossible. Et j'aimerais vous proposer cette idée ce matin que le contraire de la foi n'est pas le doute ou n'est pas le manque de foi. Le contraire de la foi, c'est la vue. Le contraire de la foi, c'est la vue. C'est ce que nous voyons. C'est ce qui nous fait détourner des promesses de Dieu. Car nos yeux nous jouent des tours et nous montrent ce qui semble impossible à première vue. J'aime cette expression « à première vue ». On a bien vu ce qu'on a vu, mais c'est la première vue. Peut-être que la première vue, c'est nos yeux humains. Mais en tant que chrétien, ajoutons une deuxième vue, celle de Dieu. 2 Corinthiens 5, 6, 7 nous dit « Nous sommes donc toujours pleins de confiance. » Est-ce qu'il y en a qui sont pleins de confiance ce matin? « Nous sommes toujours pleins de confiance car nous marchons non par la... Pardon, car nous marchons par la foi et non par la vue. » Nous marchons par la foi et non par la vue. Il y en a besoin de se rappeler ça. L'autre problème à ce moment pour le peuple d'Israël, c'est pas tant ce qu'ils voyaient, mais là où ils regardaient, là où ils mettaient leur regard. Ils mettaient leur regard sur les géants et non sur Dieu. Sur les circonstances, sur ce qui arrivait devant eux. Et quand tu commences à mettre ton regard sur les circonstances plutôt que sur le Dieu qui change les circonstances, ta foi commence à s'effondrer. Dieu a-t-il vraiment dit? Ouais, mais est-ce qu'il va vraiment se passer ça? Est-ce qu'il y en a qui sont comme ça? Moi, j'avoue, je suis comme ça des fois. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement ce qui s'est passé avec Pierre, l'apôtre Pierre. Alors qu'il y a la tempête et que Jésus arrive sur l'eau, il arrive comme un fantôme et il marche sur l'eau comme ça. Bon, peut-être qu'il ne marche pas comme ça. Mais Pierre veut aller à l'extérieur. Il dit, ordonne que je vienne vers toi. Et Jésus lui dit, vas-y, viens. Et souvent, on a peut-être tendance à voir cette scène où Pierre, il sort du bateau, il fait, je ne suis pas si sûr que ça. Je suis pas si sûr que ça. Moi, j'imagine bien la scène où Pierre, il est là, il fait « Ordonne que je vienne vers toi. » « Oui, viens. » « T'es sûr ?» J'aimerais bien voir les vidéos de cette scène-là, parce que je suis sûr qu'il est comme ça, je suis sûr qu'il shake. Parce que Pierre n'est pas fou, il voit bien ce qui se passe. Et alors qu'il est dans la barque, la tempête fait rage, il sort de la barque, il regarde à Jésus, puis il commence à marcher vers lui. À ce moment-là, le problème n'est pas sa foi. Le problème n'est pas son manque de foi, mais sa vue, son regard. À un moment donné, il commence à plonger dans l'eau, à s'effondrer dans l'eau. Pourquoi? Parce que son regard s'est détourné de Jésus. Et comprenez-moi bien, le fait de mettre le focus et le regard sur Jésus ne fait pas qu'on est aveugle à tout le reste. Il voit bien toute la tempête et tout ça. Il n'est pas fou. Mais il peut marcher sur l'eau et sa foi fonctionne. Pourquoi ? Parce qu'il met son regard sur Jésus. Et ensuite, il commence à l'enlever et sa vue, son regard se détourne. Il se détourne du regard de Jésus qui est l'auteur de la foi. Et les circonstances deviennent insurmontables et il commence à s'enfoncer dans l'eau. Où regardes-tu ? Où mets-tu ton regard en ce moment ? Dans ta vie, dans tes situations ? Où est-ce que tu mets ton regard ? Et ce qui arrive pour les 10 espions, c'est qu'ils regardaient les géants en disant « Regarde comme ils sont grands !» Voici une clé, je crois, si tu veux remporter des victoires dans ta vie, c'est quelque chose que j'ai réalisé à plusieurs reprises dans ma vie, que j'oublie, mais que je redécouvre. Arrête de dire à Dieu combien tes problèmes sont grands. Et commence à dire à tes problèmes comment ton Dieu est grand. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'on vient dans la prière, on dit oh, « Seigneur, tu vois ce qui est difficile !» Je ne sais pas si ça vous arrive, moi ça m'arrive, je pleure dans la prière parce que franchement c'est désespéré ce que je vis. Et on dit à Dieu combien nos problèmes sont grands. Seigneur, t'as vu comment c'est impossible, je n'y arriverai pas. Et puis Seigneur, en tout cas, ta grâce. Et je suis sûr que Dieu nous regarde et qu'il nous fait « Really? Vraiment ?» Et en fait, on se complaît dans ça. Et dans le fait de prier ça, on commence à se convaincre nous-mêmes que nos problèmes sont plus grands que ce que Dieu peut faire. Par contre, quand on commence à parler à nos problèmes et à dire à nos problèmes, toi, t'es rien du tout. Mon Dieu est bien plus grand que ça. Tu es en train de me dire que c'est impossible, mais Dieu, c'est possible. Dieu est plus grand que toi, puis Dieu va te défaire. Dans toute la situation, juste de parler à nos problèmes et déclarer à nos problèmes que notre Dieu est plus grand que ces problèmes-là. Parce qu'il y a un shift qui s'opère dans notre mentalité, dans notre façon de voir les choses. Au lieu de dire à Dieu combien tes problèmes sont grands, commence à dire à tes problèmes combien Dieu est grand. Amen. Parce que quand tu commences à faire ça, il y a une foi qui monte en toi. Quand dans tes prières, tu déclares la grandeur de Dieu, tes circonstances diminuent. Tes yeux humains diminuent et tes yeux de la foi augmentent. Quand tu commences à chanter des louanges qui parlent de sa grandeur, la situation, les circonstances n'ont pas changé, mais ton regard a changé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on commence à déclarer les choses que Dieu est grand, son amour pour nous, la situation ne change pas. Mais notre regard a changé et notre foi a augmenté et le doute s'en va. Pourquoi ? Parce que notre focus et notre regard est sur Jésus, l'auteur de la foi. Amen. Amen. Parce que quand on fait juste regarder aux obstacles, on commence à se faire des films et à voir ce qui pourrait mal aller. Et Yana, on est des professionnels, on est des réalisateurs d'Hollywood pour s'imaginer tout ce qui pourrait mal aller. On commence à blâmer les autres. On commence à blâmer Dieu même. On dit « Pourquoi on en est là ? Pourquoi je suis là ? C'est à cause de toi. » Et on en vient même à croire que le passé est meilleur. Nombre 14:1. Toute l'assemblée se souleva et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit « Si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie ?» Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron, à ce moment-là, tombent le visage contre terre devant toute l'assemblée et Josué et Caleb déchirent leurs vêtements. Ça, c'était un signe de désespoir de dire, qu'est-ce qu'on a fait ? Comment on en est arrivé là ? Et en fait, ils n'y croient pas. Et pour moi, à ce moment-là, c'est comme s'ils arrivent à la mi-temps du Super Bowl et ils sortent le discours parce qu'ils sont en arrière de deux touchés. Ils sont en arrière de 14 points et là, c'est le discours de la mi-temps pour remobiliser les troupes et dire « Let's go, guys, on va y aller, on va gagner. » Et voici ce qu'ils sortent. Nombre 14:7. Josué et Caleb dirent à toute l'assemblée d'Israélites « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y conduira et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des habitants de ce pays, car nous ne ferons d'eux qu'une bouchée, ils n'ont plus de protection et l'Éternel est avec nous, n'ayez pas peur d'eux !» Et boy. On l'a refait, je vous redonne une chance. Ils n'ont plus de protection, l'Éternel est avec nous, n'ayez pas peur d'eux. Et après ça, tout le peuple fut comme un seul homme derrière Caleb et Josué. Ils s'emparèrent du pays promis. C'est tout pour moi, merci d'avoir été là, Nouvelle Ville à la Prairie, bon dimanche à vous. Non ! C'est pas ça qui se passe. Nombre 14:10, le verset d'Asprey. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Et alors qu'on est dans une thématique sur l'implication, qui veut devenir leader et pasteur ce matin ? toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente de la rencontre devant tous les Israélites. L'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les signes que j'ai accomplis au milieu de lui ?» Et la suite est terrible. Nombre 14, 23. « Aucun d'eux ne verra le pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Aucun de ceux qui m'ont méprisé ne le verra. » J'aimerais te dire ce matin que la façon dont tu vois les choses aujourd'hui va déterminer ce que tu verras demain, ou pas. C'est dur. Aucun d'eux ne verra le pays que je leur ai promis. Pourtant, ce n'est pas ce qui arrive avec Caleb et Josué. Nombre 14, 24. « Quant à mon serviteur Caleb, parce qu'il était animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et sa descendance le possédera. » La Bible nous dit que Caleb était animé de notre esprit. Caleb et Josué avaient foi en Dieu et voyaient ce que lui seul pouvait faire, renverser les impossibilités, renverser les circonstances et leur donner la victoire. Et dans ce passage, quand on parle d'un esprit différent, on ne parle pas du Saint-Esprit. On parle d'une mentalité différente, d'une façon de voir différente. Là où le reste du peuple était pessimiste et voyait seulement la grandeur des géants qui étaient devant eux, Caleb et Josué voyaient la grandeur des fruits et des opportunités. Est-ce que tu mets tes yeux sur les obstacles ou sur les opportunités? Il avait un esprit différent de ceux qui l'entourent. Il était optimiste, il voyait le verre à moitié plein. Il croyait qu'avec l'aide de Dieu, il pouvait vaincre tous les géants sur sa route. Amen. Même si les autres en doutaient. Même si la majorité disait « c'est impossible ». Il avait une vision que ni l'âge ni les circonstances ne pouvaient altérer. En fait, Caleb était un homme de « grit », c'est-à-dire un homme de niaque, de ténacité qui ne lâche pas. L'image que j'ai en tête quand je vois ça, c'est un pitbull accroché à une branche. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos d'un pitbull qui est accroché à une branche. Il se balance. Mais la seule chose qu'il va lâcher, ce n'est pas lui, c'est la branche. Il ne lâchait pas. Il avait quelque chose de toujours aussi rare aujourd'hui, du courage et de la persévérance malgré les obstacles. Comme ce pitbull accroché à cette branche. Est-ce qu'on est des pitbulls pour Dieu? Est-ce qu'on est des pitbulls de foi? De « on ne lâchera pas ». Si Dieu le promet, je rejette. Dieu n'est pas impressionné par l'intelligence ou le talent. La preuve. Mais Dieu est impressionné par notre caractère. Soyons des Caleb animés de notre esprit. Et j'aime cette pensée que la foi ne rend pas les choses faciles, elle les rend possibles. La foi ne rend pas les choses faciles, elle les rend possibles. Même des fois, quand on a la foi et qu'il faut s'accrocher aux promesses de Dieu, c'est plus difficile que de ne rien faire. Mais la foi rend les choses possibles. Psaume 60, verset 12. « Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. » Et on aime chanter ça. Pour ceux qui sont un peu plus vieux dans la vie chrétienne, certains vous connaissez un chant. « Avec Dieu, nous ferons des exploits. » Maintenant, vous comprenez pourquoi je ne suis pas leader de louange. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le mot « exploit », c'est quoi? C'est « action d'éclat manifestant un grand courage. » Action mémorable qui dépasse les limites ordinaires. On aime le mot « exploit ». Sauf que nous, on ne veut pas le faire. Tout le monde veut vivre des miracles, mais personne ne veut se mettre dans une situation pour vivre le miracle. Personne ne veut quitter son confort, aussi spartiate soit-il. Et c'est ce qui arrive avec les Israélites. Ils sont dans un confort pas très solide dans le désert. Avec la manne, ils mangent toujours la même affaire. Mais lui, Caleb, voyait les choses que les autres ne voyaient pas. Il voyait les choses avec les yeux de Dieu. Alors quand tu vois que ça semble impossible devant toi, pour ton couple, pour tes enfants, pour tes projets, pour ton appel, pour n'importe quelle situation. Quand tu vois que c'est impossible, ferme les yeux. Littéralement, ferme les yeux. Ferme les yeux, prie et ouvre les yeux de la foi, car Dieu veut te montrer ce que lui peut rendre possible. Et des fois, on a besoin de juste fermer nos yeux. Ferme tes yeux pour voir. L'idée n'est pas de nier ce qui se passe, c'est pas ça du tout. Mais de ne pas te laisser influencer par ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas parfois. Parce que des fois, on doute parce qu'il ne se passe rien. On prie, il ne se passe rien. ferme tes yeux, commence à prier et mets ton regard sur Dieu. Éphésiens 3:20 nous dit que Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Je répète, Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alors, à partir d'aujourd'hui, change ta façon de voir. Arrête de regarder avec tes propres yeux, mais regarde les choses avec les yeux de Dieu, les yeux de la foi. Mets ton casque de réalité spirituelle. Mets ton casque de réalité spirituelle. Et une fois que tu le mets, que vois-tu? Vois-tu les obstacles ou vois-tu les opportunités? Vois-tu les circonstances ou vois-tu le Dieu des circonstances? Que vois-tu? Quand tu mets ton casque de réalité spirituelle, tu vois que c'est possible. Que Dieu peut tout changer, que Dieu peut tout transformer, que Dieu peut changer n'importe quelle situation. Et dire comme Caleb, si Dieu est avec nous, il nous donnera la victoire. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Si Dieu est avec nous, il nous donnera la victoire. Et ce qui est le plus fou dans cette histoire, c'est que le pays promis était le but ultime de leur voyage. Dans pays promis, il y a le mot promis, il y en a qui ont hésité. Il y a le mot pays. Oui, il y a le mot pays, mais il y a le mot promis. Dans pays promis, il y a le mot promis. Et en fait, c'était une promesse. Dieu leur avait promis. Avant même que le peuple ne soit délivré, il leur avait promis. Alors que Moïse ne connaît pas vraiment Dieu et qu'il se rébelle à lui au travers d'un buisson ardent, il confie cette promesse à Moïse. Dès la première rencontre avec Moïse, voici ce qu'il dit. Exode 3, 7, 8. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays. Un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. » Et plusieurs fois après ce moment, la promesse d'un pays où coule le lait et le miel est répétée encore et encore pour le rappeler. Et d'ailleurs, à aucun moment, Dieu n'élude le fait qu'il y aura déjà des peuples et des peuples à combattre. Il ne donne pas juste « oui, c'est un pays où coule le lait et le miel ». Non, non, il donne la suite. Et il y a des Jébusiens, des Béréviens, viens. Il l'énumère. Il n'élude pas le fait qu'il va y avoir des combats et des difficultés. Il le dit. Ma question ce matin, c'est comment ont-ils pu oublier? Comment ont-ils pu oublier la plus belle des promesses? Un pays où coule le lait et le miel. Comment ils ont pu oublier ça? Ça me fascine. À moins qu'ils ne l'aient pas oublié. À moins qu'ils ne l'aient pas oublié. Moi, je ne pense pas qu'ils aient oublié. Ils s'en rappelaient, mais ils n'y croyaient pas vraiment. Et je crois que plusieurs, on est dans cette situation ce matin. On n'a pas oublié les promesses de Dieu pour nos vies. On n'a pas oublié les promesses de Dieu qu'on lit dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est pleine de promesses pour nos vies. On ne les a pas oubliées même, on les connaît par cœur, on les récite, on les chante. Mais est-ce qu'on y croit? Ils n'avaient pas oublié, mais ils n'y croyaient pas. Et je crois qu'il y a une très grosse différence entre se rappeler les promesses de Dieu et croire dans les promesses de Dieu. Dieu nous a fait des promesses, mais le temps passe et on n'y croit pas. On n'y croit plus. On se dit, ah, les circonstances ne sont pas favorables. On se dit qu'on s'est imaginé les choses. Ouais, mais est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Bon, peut-être que je suis dans un moment de louange avec le super band de louange, puis je me suis imaginé les choses. Puis le diable te dit, est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que ce n'était pas toi avec les émotions et le piano en arrière qui... On commence à douter. L'ennemi nous parle et nous dit « Sérieusement, tu crois que c'est possible ?» Et je crois qu'il se rappelait de la promesse, mais je crois qu'il n'y croyait pas. Parce que lorsque tu y crois, tu te bats pour l'obtenir. Et la vérité, c'est qu'il faut se battre pour s'emparer des promesses de Dieu. C'est jamais clé en main comme ça. Il faut se battre pour s'emparer des promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont très rarement passives. La foi n'est pas seulement une question de contemplation. La foi nous pousse à l'action. Et je ne crois pas à une foi qui est là et qui est dans l'attente. Et beaucoup vivent leur foi comme ça. Mais la foi que Dieu veut qu'on vive est une foi en action, qui s'empare des promesses. Et la Bible nous dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Pas les violents dans le sens... Non, ça n'a rien à voir avec ça. Le pitbull. 100% près des promesses de Dieu, soyons des violents dans la prière. Soyons des violents dans nos actions, de croire ce que Dieu fait, de se battre pour ce qu'on croit, pour les promesses que Dieu a pour nous, pour nos familles, pour nos enfants. Battons-nous. Je pense certains, ce matin, t'y crois pas, t'y crois plus. Je pense que pour certains, ce qui arrive, c'est que t'es comme le peuple d'Israël. T'as pas oublié les promesses que Dieu t'a faites, mais t'y crois pas. Ou tu n'y crois plus. Tu les as enfouis parce qu'il semblait qu'elles ne pourraient pas se réaliser. Mais j'aimerais te dire ce matin que Dieu ne se repent pas de ses promesses. Ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Si Dieu t'a promis quelque chose, il va le faire. Dieu ne se repent pas de ses promesses. Et Dieu veut renouveler la promesse qu'il t'a faite ce matin et te dit, ma promesse tient toujours. Tu l'as mise de côté, mais ma promesse tient toujours. Elle est toujours là pour toi. Alors rappelle-toi ses promesses pour ta vie, mais crois qu'il va les accomplir. Prie en ce sens et bouge en ce sens. Il y en a qui bougent beaucoup, mais qui ne prient pas. Il y en a qui prient beaucoup, mais qui ne bougent pas. Prie et bouge. Une foi en action pour s'emparer des promesses que Dieu a pour nous. Certains dans la vie disent « il faut le voir pour le croire ». Qui connaît cette expression ? « Il faut le voir pour le croire ». Mais avec Dieu, c'est différent. Avec la foi, c'est « il faut le croire pour le voir ». Il faut le croire pour le voir. Est-ce que tu crois ? Est-ce que tu crois que Dieu peut accomplir ce qu'il a promis ? Est-ce que tu crois que Dieu peut changer la situation ? Est-ce que tu crois vraiment que Dieu peut réaliser des choses impossibles ? Et d'ailleurs, Hébreux 11:1 nous le dit. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas. Que vois-tu ? Rien. Super, t'es dans la bonne direction. T'es dans la bonne direction. En fait, le titre de mon message n'est pas bon. Je vais recommencer ce matin ma prédication. Le titre de mon message ce matin, c'est « Que crois-tu ? » Que crois-tu ? Que crois-tu sur Dieu ? Que crois-tu sur ses promesses ? Que crois-tu sur ce qui est possible avec lui ? Car ce que tu vas croire va beaucoup déterminer ce que tu vas voir. Et ce n'est pas une affaire de méthode Coué de « j'y crois, ça n'a rien à voir avec ça. » Mais ce que tu vas croire va déterminer ton état d'esprit. Et ton état d'esprit va déterminer tes actions. Et c'est alors qu'on bouge que Dieu bouge aussi. Que crois-tu ? Ce qu'on va croire va beaucoup déterminer ce qu'on va voir. Et Caleb a cru les promesses de Dieu. Caleb a cru pour le pays promis. Malgré tous les obstacles, malgré les géants, malgré les Jébusiens, les Kénésiens. Il a cru, il s'est battu et il les a vus s'accomplir. Et je crois qu'on peut passer à côté de notre vie chrétienne parce qu'on a arrêté de croire. Oh, on vient à l'église, on chante, on dit amen au prédicateur. Mais dans notre vie de tous les jours, on n'y croit pas. Que crois-tu ? Caleb a cru, il s'est battu et il les a vus. Josué 14:7. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, le serviteur de l'Éternel, m'a envoyé de Kadesh Barnéa explorer le pays. Et c'est avec un cœur droit que je lui ai fait mon rapport. Maintenant, voici que l'Éternel m'a fait vivre. Comme il l'a dit, il y a 45 ans que l'Éternel a dit cela à Moïse. Tu trouves que ça fait longtemps que tu patientes ? À l'époque où Israël marchait dans le désert, et je suis aujourd'hui âgé de 85 ans, je suis encore aussi robuste que le jour où Moïse m'a confié cette mission. J'ai autant de force que j'en avais alors, qu'il s'agisse de combattre ou de partir en campagne et en revenir. Donne-moi donc la région montagneuse dont l'Éternel a parlé à cette époque-là. Josué 14:14. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephunné, le Kénésien, a eu jusqu'à aujourd'hui Hébron pour héritage parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Caleb a cru, Caleb était animé dans notre esprit. Combien veulent voir les promesses de Dieu se réaliser dans leur vie ce matin ? Que crois-tu ? Que crois-tu ? Arrête de faire confiance à ce que tu vois. Fais confiance à ce que tu crois. Aux promesses de Dieu, à la parole de Dieu. Que vois-tu ? Où mets-tu ton regard ? Sur les défis ou sur Dieu ? sur les obstacles ou sur les opportunités. Que crois-tu? Est-ce que tu crois que Dieu peut te changer? Dieu veut te donner un esprit différent ce matin. Dieu veut augmenter ta foi et te dire, fais-moi confiance, je suis au contrôle. Est-ce que tu me crois? Tu vas voir ce qu'on va faire, on va faire des exploits ensemble. Que crois-tu? Dieu veut te donner un esprit différent, qui voit les possibilités, qui voit ce que Dieu peut faire au milieu de l'impossible. Il est celui qui change les temps et les circonstances. Il est le Dieu de l'impossible. Qu'il croit ce matin. Il est le Dieu de l'impossible. Il est sans limite. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu de... Il est le Dieu de... Pourquoi je vous fais dire ça? Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu veux que ta foi augmente, grandisse, lis la parole de Dieu. Emporte-toi de ses promesses. Arrête de te fier à ce que tu vois au dehors. Fie-toi à ce que tu lis dans la parole de Dieu. Parce que Dieu a des promesses de paix, de bonheur pour toi. Et ce qu'il l'a promis, il va l'accomplir. Est-ce que vous le croyez ce matin? Alors est-ce qu'on pourrait se lever ce matin et déclarer ensemble le Dieu des promesses, le Dieu de l'impossible? Que ce qu'il a promis, il va l'accomplir. D'arrêter de regarder à ce qui est autour de nous, de regarder aux circonstances, de regarder à l'orage, à la pluie, à tout ce qui est autour de nous, qui nous dit « ça ne marchera pas », ou le diable qui nous dit « mais que crois-tu vraiment? Tu penses que Dieu peut faire ça pour toi ?» Oui, je le crois. Oui, je le crois. Parce que mon Dieu est un Dieu bon, fidèle, et ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Parce que ses promesses sont certaines. Amen. Alors, est-ce qu'on pourrait fermer nos yeux ce matin? Et si tu as besoin que ta foi augmente ce matin, de dire, moi j'ai des situations terribles en ce moment, je ne sais pas comment je vais faire, et tu dis, moi j'ai besoin de prière, j'aimerais prier pour toi ce matin, si tu veux lever ta main. Alors que tout le monde a les yeux fermés, puis que tu vis des choses compliquées, la promesse semble impossible. Il y en a, tu pries depuis des années pour quelqu'un dans ta famille, et c'est compliqué. J'aimerais prier pour toi. Puis alors que j'aurais terminé ma prière, qu'on puisse chanter et déclarer avec foi que le Dieu de l'impossible fait des choses incroyables. Seigneur Jésus, merci pour ce matin, merci pour ta parole, merci parce que tu ne changes pas, Seigneur. Merci parce que tu es là, Seigneur, que nos yeux ne soient pas fixés sur les circonstances, mais que nos yeux soient fixés sur toi. Seigneur, nous ne voulons pas nous fier à ce que nous voyons, nous voulons nous fier à ce que nous croyons. Nous croyons en toi, le Fils de Dieu, mort et ressuscité, le Dieu de l'impossible, celui qui change tout, qui change les temps, les circonstances, le Dieu des promesses, que ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes ce matin qui ont levé la main, qui disent « moi, j'ai besoin d'une dose de foi ce matin, j'ai besoin que ma foi se relève ». Viens, Seigneur, augmenter la foi de tous et chacun ce matin. Moi, le premier, Seigneur, viens augmenter notre foi, que nous basions notre foi pas sur ce que nous voyons, mais sur ta parole, sur qui tu es, sur ton caractère, car tu es le Dieu de l'impossible. Alors ce matin, chantons le Dieu des promesses et le Dieu de l'impossible. Est-ce que je pourrais entendre un amen ce matin pour le Dieu de l'impossible? Alléluia, Jésus. Merci.